On est de retour pour la revue de presse et on va parler encore de la maladie d'Alzheimer. On en a parlé donc en début d'émission avec notre chroniqueur scientifique Philippe Ducharme. Et de mon côté, je vais vous parler donc d'une nouvelle recherche qui parle de l'obésité qui pourrait accélérer le développement de la maladie d'Alzheimer. Il y a des résultats qui disent que les analyses de sang pourraient être plus sensibles pour détecter la maladie d'Alzheimer que les seuls examens d'imagerie cérébrale pour repérer la manière dont l'obésité affecte les stades précoces de démence. Donc, c'est la première fois qu'on met en évidence la relation entre l'obésité et l'Alzheimer en tant que mesurée par des tests biomarqueurs sanguins. Bien sûr, on savait qu'il y avait une espèce de corrélation entre le fait d'avoir de l'obésité et d'avoir de l'Alzheimer. Par contre, c'est la première fois qu'on arrive à avoir des tests par biomarqueurs sanguins. Donc, quelque chose qu'on est capable de voir dans le sang. Okay, donc, ça nous aide à avoir des pistes plus précises et plus mesurables de certaines choses qui affectent donc la maladie d'Alzheimer et qui peuvent accélérer son développement. Et là, ici, on parle évidemment du problème de l'obésité. C'est ce que découvert le docteur Cyrus Raji. Co-auteur de l'étude et professeur associé en radiologie et neurologie à la faculté de médecine de l'Université de Washington. Donc, ça s'est passé évidemment à Saint-Louis, aux États-Unis. En fait, le fait de pouvoir suivre l'influence prédictive de l'obésité sur l'augmentation des biomarqueurs sanguins, en plus de la sensibilité de la tomographie par émission de position, et quelque chose qui va vraiment faire avancer pour être capable de mieux détecter donc marqueurs précoces de la maladie d'Alzheimer et évidemment à long terme être capable de voir les effets arriver et éventuellement de ralentir ou de déjouer les premiers signes de la maladie pour les personnes qui en seraient atteintes ou qui peuvent en être atteintes. Qui ont des fortes chances finalement de développer cette maladie-là. Donc, les conclusions n'ont pas encore été publiées dans une revue à comité de lecture, mais seront présentées donc prochainement au congrès annuel de la Société de radiologie d'Amérique du Nord. Et on en parlait aussi avec Philippe Ducharme, écouter de la musique pourrait réduire le risque de démence chez les personnes aînées. C'est aussi une étude qui a été faite par l'équipe du docteur Raji, donc sur 407 personnes pendant 5 ans, et toujours avec des prélèvements sanguins et des examens, donc TEP, donc de tomographie par émission de position, on se rend compte que les gens qui écoutent de la musique ont moins de développement de la maladie et que la maladie évolue moins rapidement. Ça va un peu avec ce que disait Philippe donc au début de l'émission, mais Philippe parlait de jouer de la musique. Ici, on parle d'écouter la musique, donc c'est peut-être quelque chose qui est plus accessible hein, pour les gens qui auraient donc jamais joué de musique de leur vie et qui n'ont pas le temps ou le désir d'apprendre à jouer des instruments. Hein. Écouter de la musique, c'est à la portée de tout le monde, et donc ça pourrait effectivement aider au niveau cognitif, les patients atteints d'Alzheimer ou les personnes qui ont des risques particuliers de développer Alzheimer. Donc, au niveau de l'obésité, donc c'est associé à une augmentation de 24% de la protéine NFL, plastatique, une augmentation donc de 29 à 95% plus rapide du biomarqueur sanguin PTAU-217, qui est un biomarqueur sanguin qui vient avec, qui annonce la maladie d'Alzheimer. Donc, on parle quand même, c'est ça, autour de 25%, autour de 30%, parfois beaucoup plus pour les gens qui ont de l'obésité. Ça montre à quel point, en fait, ça peut être un facteur qui est déterminant, mais j'ai envie de dire aussi un facteur hein, qui peut être détourné, hein, parce que, évidemment, l'obésité, bien que, évidemment, c'est complexe, hein, l'obésité, puis il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, c'est aussi quelque chose qu'on peut renverser. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle dans l'optique où, en comprenant mieux comment on peut arrêter la progression de la maladie, on peut aussi voir ça comme étant des signes pour mieux prévenir. Et donc, c'est ce que cette étude-là nous amène, en fait, hein, pour être capable de mieux comprendre et éventuellement de mieux prévenir cette maladie-là. On s'en va complètement ailleurs. Hein. On s'en va donc pour la FIFA. Donc, pour l'association donc de soccer ou de football, hein, si on le dit à l'européenne, la FIFA est accusée d'ignorer les supporters du mondial en situation de handicap. On parle du mondial qui a été annoncé en Amérique du Nord, entre autres au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Et ce qu'on reproche à la FIFA, en fait, c'est de ne pas laisser entrée gratuite aux accompagnateurs des personnes qui seraient en situation de handicap. On sait que dans plusieurs événements sportifs et événements culturels, quand on a besoin d'un accompagnateur pour venir avec nous dans ces événements-là, ben l'accompagnateur n'a pas à payer son billet. Étant donné, évidemment, que c'est obligatoire pour nous d'avoir un accompagnateur pour bien vivre l'événement. Et la FIFA, elle, n'a pas sorti donc de gratuité pour les personnes qui auraient besoin d'un accompagnateur, d'une accompagnatrice pour aller au match de la FIFA. Et évidemment, on parle aussi des prix, hein, les prix des billets pour le mondial en Amérique du Nord qui sont très, très, très élevés. Donc, imaginez si vous devez en payer deux plutôt que un parce que vous êtes en situation de handicap. Si les billets avaient été donc de quelques dollars, on en aurait peut-être moins parlé. Mais là, étant donné la situation où les prix sont exorbitants, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap là, qui ne pourront pas avoir accès à l'activité étant donné qu'ils ont besoin d'un accompagnateur et que celui-ci doit payer un billet et qu'ils n'ont pas les moyens de doubler finalement ce que ça va leur coûter. On rappelle donc que quand il y avait eu le mondial au 14, il y avait des billets pour seulement une dizaine de dollars pour les personnes en situation de handicap et l'accompagnateur, lui, avait une entrée gratuite. Okay? Et là, on est très loin du dollar pour ce qui est du mondial au niveau de l'Amérique du Nord. Donc là, évidemment, il y a eu une augmentation des coûts de la vie, hein, mais quand même, on pense que la FIFA aurait pu faire... plus attention à être plus sensibilisé à ces enjeux-là et on semble être passé du côté de la FIFA. Ça fait déjà là, quelques jours qu'on parle de ça et pour l'instant, on a beaucoup de nouvelles de la part de la FIFA qui n'a pas répondu à l'enjeu qui a été soulevé là, par des amateurs, des amatrices en situation de handicap. On verra si, au final, il y aura des mesures qui seront prises par la FIFA avant l'ouverture, évidemment, des mondiaux. Finalement, on va parler d'accessibilité sur le transport aérien au Canada. On en a parlé hein, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, beaucoup. Il y avait eu plusieurs incidents qui étaient déplorables hein, avec des personnes en situation d'handicap qui avaient reçu de très mauvais services, des équipements qui avaient été brisés, entre autres, des gens qui avaient été refusés sur des vols à cause de leur handicap. C'était évidemment des situations qui étaient inacceptables. Et maintenant, la dirigeante principale de l'accessibilité du Canada, Stéphanie Cadieu, a rendu public ses constats après un travail auprès des transporteurs aériens et des organismes de transport afin d'élargir l'accessibilité du transport aérien pour les personnes en situation de handicap. Dans ce qui a été rendu public, donc dans les constats publics qui ont été présentés par Mme Cadieu, elle dit avoir tiré des apprentissages de ses échanges sur l'accessibilité aérienne. Elle dit aussi qu'il y aura des défis, que les progrès, les occasions, les rôles et les responsabilités sont du côté, évidemment, là, des grandes compagnies. Elle veut aussi sensibiliser le public et demander, évidemment, des changements. On s'attend à ce que des grandes compagnies emboîtent le pas et fassent des changements qui sont significatifs. Donc, selon un communiqué publié à propos de cette prise de position, l'accessibilité est majeure. Et on demande des actions qui sont fermes, étant donné que dans les derniers mois, on s'est engagé hein, à faire quelque chose, on s'est engagé à améliorer les conditions du public en situation de handicap, mais il y a très peu d'actions concrètes qui ont été prises. À part, évidemment, qu'il y a la Cour suprême là, qui ont demandé, je devrais dire exigé, à certains transporteurs aériens d'accommoder des personnes en situation de handicap. Mais outre ça, à part les exigences de la Cour, les transports aériens n'ont montré que peu d'ouverture et peu d'actions concrètes. Donc, on verra ce que ça donne avec le temps. On continue avec 576 résidences privées pour aînés qui sont toujours sans dispositif anti-fugue. On parle de près de la moitié des RPLA qui hébergent des personnes à risque d'errance ou qui n'ont pas installé des dispositifs anti-fugue, qui sont pourtant prévus dans leur certification. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que ces gens qui, pour avoir ces certifications, il fallait mettre des dispositifs anti-fugue. Et ça n'a pas été mis par la moitié des résidences qui ont ce type de certification-là parce qu'ils accueillent des personnes qui sont en risque de fugue. Bien sûr, on en parle parce que dans les dernières semaines, il y a eu des drames terribles avec des personnes aînées qui sont malheureusement mortes de froid après s'être sauvées de RPA. Donc, c'est effectivement quelque chose qui a causé des soucis pour les personnes qui étaient responsables des RPA, qui ont soulevé des questionnements quant à la sécurité des personnes en résidence. Et donc, pour ce qui est des RPA, il faudra revoir, en fait, les dispositifs. Il faudra envoyer aussi plus de gens pour faire des inspections surprises parce que, évidemment, si ça fait partie de la certification que d'avoir des dispositifs anti-fugue, bien, ils doivent être mis de l'avant. Mais évidemment, il y a des problèmes au niveau de la rentabilité des RPA. Donc, on s'excuse au niveau des directions de dire qu'on n'a pas les moyens de mettre ces dispositifs-là qui coûtent plusieurs milliers de dollars. Donc, ce sera à suivre, à voir si on va sévir au niveau des RPA qui n'ont pas ce qu'il faut pour répondre à leur certification. C'est tout pour nous. On se rejoint la semaine, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Bonne semaine.